dans la fabrication de médicaments et de matières plastiques non polluantes.
La Bourse, avec Union Financière de France, Banque Conseil en création et gestion de patrimoine.
Et à la mi-journée, une séance en baisse, Vincent Bezeau.
Effectivement, Jacqueline, après avoir pulvérisé record sur record depuis le début de la semaine, la Bourse de Paris plie aujourd'hui sous les prises de bénéfices. Le CAC 40 accusant en ce moment un repli de 0,69% à 4618 points dans des volumes plutôt étoffés de 2,7 milliards d'euros. Ailleurs en Europe, même tendance, l'Euro First 80, l'indice de référence de la zone euro, trébuche de 0,78% sur le marché des changes, alors que tombera à 16h aux États-Unis l'indice ISM des directeurs d'achat du secteur des services. L'euro demeure sous les 1,20 à 1,1956 précisément. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 465,25 $. Le CAC 40 abandonne 0,69% à 4618 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Et puis premier résultat des courses à Angers avec la première course, la combinaison gagnante du Quintet Plus, 15, 14, 18 et 9. 14h03, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui un tournant dans l'histoire du 20e siècle, c'était il y a 20 ans, l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev.
En Union soviétique, le cours de l'histoire s'est brusquement accéléré. Il était 19h20 hier, lorsque le numéro 1 du Kremlin, Konstantin Tchernenko, est mort à l'âge de 73 ans. Il était 16h15, lorsque le nom de son successeur a été rendu public. Le nouveau patron de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques est le plus jeune membre du Politburo, Mikhaïl Gorbatchev, 54 ans.
D'histoire. Avec les deux mots qui résumaient toute sa politique, la perestroïka et la glasnost, en 6 ans à peine, Mikhaïl Gorbatchev a provoqué l'effondrement du plus grand empire de l'histoire, la fin de la guerre froide et du communisme, et l'avènement de la démocratie dans tous les pays d'Europe de l'Est. Emporté lui-même par une révolution dont il n'avait sans doute pas mesuré toutes les conséquences, l'histoire retiendra quand même que cet apprenti sorcier fut l'artisan, parfois malgré lui, des plus grands bouleversements qu'ait connu le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ni lui, ni personne, n'aurait pourtant pu l'imaginer lorsqu'en mars 1985, sur la place rouge de Moscou, aux obsèques de son prédécesseur, Mikhaïl Gorbatchev rassurait au contraire tous ceux qui craignaient qu'il remette en cause le régime communiste.
Chers camarades, nous accompagnons à sa dernière demeure Konstantin Tchernenko. Aujourd'hui, devant le peuple soviétique, le Parti communiste et le Politburo du Comité central affirment fermement leur volonté inébranlable de servir fidèlement la cause du socialisme et du communisme.
Vladimir Fedorovski, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez un proche de Mikhaïl Gorbatchev, que l'on vient d'entendre le jour où il devenait le numéro un soviétique. Alors quand on sait aujourd'hui ce qui a suivi, on est étonné quand même de l'entendre ce jour-là, sur la place rouge, à Moscou, tenir au fond le même langage que ses prédécesseurs. Alors c'est peut-être parce que, vous le rappelez d'ailleurs dans un livre qui vient de sortir, Paris-Saint-Pétersbourg, c'est peut-être parce qu'au fond, on l'oublie quand même, ce système qu'il voulait réformer, il en était lui-même issu, il y a fait toute sa carrière, c'était un apparatchik.
Bien sûr, mais nous sommes tous nés là-bas, on ne peut pas reprocher à Gorbatchev de naître là-bas, c'est vrai, mais je voudrais vous dire très franchement, s'il annonçait tout de suite la couleur, il aurait été fusillé tout de suite, mais j'étais membre de complot. Avant, je raconte ça pour la première fois dans ce livre, comment ça s'est passé, il disait, nous allons prendre le donjon pour détruire le château. Ça veut dire, on va prendre le Kremlin pour détruire le système totalitaire. Alors c'était un enjeu, mais on ne pouvait pas annoncer tout ça avant l'heure. Il y avait, bien sûr, des contraintes, parce que il n'était pas seul, il était entouré. Mais je dois vous dire, à côté de lui, très peu de personnes qui ont compté.
Parmi les personnes qui ont compté, vous le rappelez aussi, Vladimir Fedorovski, il y avait sa femme. Il est entré au Parti communiste en 1952, il avait 21 ans, il est né en 1931, mais il y entre pratiquement en même temps qu'il se marie avec Raïssa, qui est sans doute, vous le dites, une des femmes qui a le plus compté dans l'entourage d'un dirigeant soviétique. Jamais on a vu même une femme tenir un tel rôle auprès du numéro un soviétique.
Je dirais même plus, c'est une des femmes qui a changé le cours de l'histoire, vous comprenez, parce que c'était une, on dit, égérie inspiratrice, c'était plus que ça, c'était son principal conseiller, il ne faut pas se leurrer, et tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait ensemble, et ça aurait pu être bien autrement s'ils ne voulaient pas faire ça, ça, contrairement à ce qu'on pense. Vous savez, entre nous, ça aurait pu durer, ou ça aurait pu terminer dans les fleuves de sang. Et elle a proposé une place, une chose cohérente. Ils m'ont raconté, vous montrez la face, disons, visible, mais je raconte la face cachée surtout. Elle a attendu très tard dans la nuit. Ils ont parlé encore très longtemps, jusqu'à 4 heures du matin. Et la seule phrase qui a résumé cette conversation, c'est-à-dire, on ne peut pas vivre comme ils ont vécu, on ne peut pas vivre comme avant. Et finalement, ils ont prononcé ces mots fatidiques qui sont entrés dans l'histoire du XXe siècle. C'est les mots glasnost et la perestroïka.
Ça, c'était juste avant qu'il arrive au pouvoir. Alors, quand il devient justement secrétaire général du parti, eh bien, en mars 85, dans le monde entier, on parle presque autant de sa femme, Raïssa, que de son mari, France Inter, Patrice Bertin, le 11 mars 1985.
Le nouveau patron de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques est le plus jeune membre du Politburo, Mikhaïl Gorbatchev, 54 ans. Un peu bedonnant, le cheveu clairsemé, courtois et souriant, Mikhaïl Gorbatchev n'a vraiment pas l'allure classique des dirigeants soviétiques. En décembre dernier, lors de son voyage à Londres, en compagnie de sa charmante épouse Raïssa, Gorbatchev avait littéralement séduit les Britanniques, comme nous le rappelle Pascal Delannoy.
Il est venu, il a parlé, il a séduit. Celui qui n'était encore à l'époque qu'un haut dignitaire du Kremlin a, c'est vrai, impressionné ses interlocuteurs. C'est ainsi qu'après l'avoir rencontré pendant plus de 3 heures dans sa résidence de Chequers à la campagne, Madame Thatcher avait pu faire cette confession « Je l'apprécie, avec lui on peut travailler ». Il y a aussi, vous l'avez dit, la présence de son épouse. Enfin, quelqu'un qui ne donne pas l'impression de venir de Sibérie avait même écrit à son propos un journal londonien.
C'est vrai que le couple Gorbatchev, Vladimir Fedorovski, est très différent de ceux auxquels on était habitués avant son arrivée au pouvoir. Il n'y avait pas de madame, on les voyait pas, ni madame Tchernenko, ni madame Brejnev, ni madame Andropov. On voyait de temps en temps madame Khrouchtchev, mais disons qu'elle ne comptait pas. Est-ce que elle-même a beaucoup compté ensuite, une fois qu'il est arrivé au pouvoir?
Complètement, mais...
Est-ce que c'était simplement un faire-valoir? Parce qu'après tout, les présidents américains montrent régulièrement leurs épouses.
Oui, mais vous savez, on peut comparer peut-être elle avec Madame Clinton. Mais cela dit, elle comptait plus que ça. Parce que les décisions fatidiques, dès le début jusqu'à la fin, ont été prises ensemble. Et elle les influençait à tel point que quand on voulait passer le message, par exemple, à propos de choses délicates, on passait parfois avec à travers Raïssa. Elle a soutenu aussi les grands réformateurs autour de Gorbatchev, notamment son numéro 2, Yakovlev. Tout ça, ça a compté, évidemment. Il a commis quelques gaffes, notamment à propos d'Eltsine, mais ça, je crois que c'est secondaire par rapport à ce qu'ils ont fait, mais rien que sur le plan extérieur. Vous comprenez? Aujourd'hui, je crois bien que c'est jour par jour quand ils sont sortis pour la première fois. Et c'est pas par hasard qu'ils ont choisi la France il y a 20 ans.
Et justement, avant,
pour venir.
Parce que là, vous parlez d'un homme, c'est vrai, on s'en souvient, beaucoup plus populaire en Occident que ses prédécesseurs. D'abord, lui était plus jeune, il avait 20 ans de moins.
Bien sûr.
Que Tchernenko, quand il est devenu très brièvement premier secrétaire du Parti communiste. Mais on a le sentiment, et ça on s'en est pas rendu compte en France ou en Occident, qu'il était plus populaire à l'étranger que chez lui.
Bien sûr, parce qu'il bousculait tout de suite les habitudes. Et vous savez, il me disait une fois, je suis un mauvais tsar. Un bon tsar, c'est un tsar qui tue. Et ça en dit long sur la mentalité longue du pays. Pour comprendre la subtilité de ces personnages, je voudrais souligner aussi un fait, et c'est pas par hasard que je rends d'ailleurs dans ce livre l'hommage au génie français, mais vous savez, ils ont été influencés par cet esprit universaliste du génie français. Ça comptait énormément pour eux. Dans ce premier discours, ils parlent déjà des valeurs universelles, parce qu'on n'a pas entendu. Oui. Déjà, c'était un message pour le monde, primauté par rapport aux valeurs de classe, et ça finalement a joué un rôle. Mais évidemment, quand ils sont venus ici, je me souviens...
Oui, parce que ils sont tellement francophiles que le premier voyage qu'ils font à l'étranger... C'est en France,
bien sûr,
après sa nomination.
Mais après, Mitterrand m'a dit...
Vous y étiez là, d'ailleurs.
Absolument. Il m'a dit, je suis taraudé. Comment ce système peut produire les gens si ouverts, si séduisants? D'ailleurs, ils sont devenus plus tard amis. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, ils parlent avec beaucoup d'aisance, des classiques français, de la littérature française. On propose les visites, vous savez, comme ça, dans les musées un peu secondaires. Ils voudraient voir Picasso. Ils sont complètement étonnés. Et puis, ils parlent d'une manière... très très peu habituel pour les choses, pour dire qu'on va aller très très loin pour en finir. Vous savez, je vais vous dire les réalités, comme j'étais vraiment dans les coulisses de cette affaire. Ne trompez-vous, on n'était pas les enfants de cœur. On n'était pas les apprentis sorciers, on savait ce qu'on faisait.
En tout cas, ce voyage en France, c'était entre le 2 et le 4 octobre, il y a 20 ans, tout juste, hein, 1985, l'année même d'ailleurs où Gorbatchev annonçait sa volonté de réformer les structures de l'URSS avec deux maîtres mots qui résument sa volonté de réforme, la glasnost et la perestroïka. On écoute Gorbatchev à la télévision russe en 1985.
La liberté est un élément clé de la perestroïka, dans le processus politique, dans la vie spirituelle, dans le choix de son destin. Sans réforme politique, nous n'aboutirons à rien.
Пришла пора, за правду надо драться, чтоб наш корабль по курсу развернуть. Вступают в бой все новые отряды, скорее в строй и тверже шаг держи. По всей стране идут уроки правды взамен уроков лжи. Мы отступали, долго отступали, самих себя теряли по пути. Мы подлецам дорогу уступали, и виноваты в том, как ни крути.
Nous n'avons pas à nous cacher, à nous taire et à nous tromper nous-mêmes éternellement. Partout, on enseigne désormais la vérité contre le mensonge. C'est ce que dit en gros cette très belle chanson de l'époque de la perestroïka, de la glasnost. Deux mots dont évidemment on se souvient tous aujourd'hui, Vladimir Fedorovski, sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Perestroïka d'abord, ça veut dire restructuration de l'économie. Hein.
De l'économie, de tout, mais il voulait, et je pense que sur ce plan-là, il a eu raison, parce qu'il voulait avantager aussi les réformes politiques, et non seulement les réformes économiques. Vous savez, le message des Chinois que vous adorez aujourd'hui, c'est le message très simple, on va continuer de tuer et on va développer l'économie. C'est le message d'Andropov aussi, qui est maître de pensée d'ailleurs, aujourd'hui de Poutine.
Le prédécesseur de Gorbatchev.
Alors, tandis que Gorbatchev, il a voulu avantager le processus de la liberté, et Dieu sait, je suis persuadé qu'il a eu raison, parce que, vous comprenez, tout d'abord ça aurait pu durer, d'autre part, la liberté ça n'a pas de prix. Troisièmement, tuer c'est mauvais et vivre dans le mensonge c'est aussi mauvais. Et le quatrièmement, si on me permettait, vous comprenez, l'acquis de ça, c'est tellement appréciable. Parce que la liberté ne peut pas, vous savez, n'a pas de prix et on ne peut pas vivre dans le mensonge aussi.
La liberté, eh bien justement, c'est aussi ce qui va résulter de la glasnost, c'est-à-dire au fond de la transparence.
La liberté de parole, toujours la même chose.
La liberté de parole et qui va se manifester, eh bien, dans un régime qui était totalement opaque, hein, il faut bien le rappeler, Vladimir Fedorovski. Et cette liberté, c'est la liberté d'expression qui va se manifester en 86 avec la libération du plus célèbre des dissidents soviétiques en résidence surveillée depuis 1980 et qu'on écoute dans cette archive le jour de sa libération en 1986.
Eh bien, cela dépend de Mikhail Sergeïevitch Gorbatchev. Je ne refuserai jamais aucune rencontre. Cela serait bien sûr bien parce que je pourrais lui dire personnellement ce que je lui ai déjà dit au téléphone, ce que je pense, et puis beaucoup d'autres choses. Et je pourrais lui répéter encore une fois mes remerciements pour le changement dans notre sort, dans notre destin qui vient de se produire. Je respecte beaucoup Gorbatchev. La nouvelle politique de transparence, de glasnost, dans notre pays aujourd'hui me semble très importante. Elle manquait depuis toujours à notre pays.
Et c'était la voix de Sakharov, le 24 décembre 1986, jour de sa libération. Il était en résidence surveillée depuis 80, c'est-à-dire depuis les prédécesseurs. Ça c'est important, ça a beaucoup marqué aussi en Occident.
Vous savez, j'ai participé un peu à ça, et j'ai eu des longues conversations après avec Sakharov à Paris, mais c'est pas seulement Sakharov, c'est aussi la Solzhenitsyn, le retour de Nureyev, la libération, le changement, partout, et c'était désiré. C'est pas quelque chose que Gorbatchev était obligé de le faire. Et c'est l'œuvre, je tiens à le souligner, je raconte encore une fois cette face cachée de ces gens-là. Vous savez, il y avait très peu de personnes qui ont conçu ça. Quelques personnes, 5-6 personnes, Raïssa, l'entourage direct de Gorbatchev, et ça a changé la donne. Et je suis persuadé qu'avec Jean-Paul II, Gorbatchev va rester dans l'histoire du XXe siècle.
Oui, mais quand même, ça a des limites, ça change la donne. Certes, on libère les dissidents, on libère le plus célèbre d'entre eux qui est Sakharov, on leur permet de critiquer le système, mais on touche pas tellement au système. Le système reste un système à partie unique. En fait, on voit bien qu'il est prêt à aller loin, mais jusqu'à un certain point. C'est ça tout le drame, au fond, de Gorbatchev.
C'est le drame de Gorbatchev. Vous savez, il voulait maîtriser le processus. Il pensait qu'il fallait aller jusqu'au bout, étape par étape. Aussi, il était dépassé par les problèmes économiques et les problèmes, évidemment, nationaux, qui est le problème de l'Empire. Mais par rapport à ce qu'il fait, vous comprenez, il a évité la guerre mondiale. Moi, je suis persuadé que ça aurait pu terminer autrement dans ce pays, avec les traditions de violence et avec ses 10 000 têtes nucléaires. Moi, je suis persuadé que ça aurait pu terminer dans l'apocalypse mondiale. Ils ont invité pour éviter ça. Vous avez dit, le plus grand empire s'écroule sans effusion de sang. Mais c'est ça qui était le but de l'exercice. La liberté à l'Est, ça, c'est quelque chose qui compte. Et je vais vous dire, la fin de la guerre froide, c'est quelque chose. Même en Russie, ça compte. Vous savez, on n'a pas réussi tout. Vous connaissez, après la pagaille, après les gens qui remplissaient les poches. Vous connaissez le retour du KGB au pouvoir avec Poutine. Mais quand même, l'essentiel est là. L'essentiel que le processus était irréversible et voulu par ces gens.
À ceci près, Vladimir Fedorovski, c'est que la perestroïka, qui était une réforme essentiellement des structures économiques, ça n'a pas fonctionné. Les Russes se rendent bien compte, certes, il y a plus de liberté d'expression, mais il y a toujours des gueux devant les magasins, ça va mal. La Russie, l'URSS, elle s'appelle encore comme cela, fait appel à des capitaux étrangers. À ce moment-là, elle ne peut plus vivre que de cette manière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça va permettre au président des États-Unis d'accorder ces capitaux, mais avec des contreparties, dont celle-ci, lorsque Ronald Reagan arrive à Berlin en 1987 pour y demander la disparition, devant le mur de Berlin, devant la porte de Brandebourg, la disparition de ce qui, depuis 20 ans, symbolisait la division du monde en deux blocs.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace,
Secrétaire général Gorbatchev, si vous voulez la paix et la prospérité pour l'Union soviétique et l'Europe de l'Est, si vous voulez la libéralisation, venez ici à cette porte. Monsieur Gorbatchev, ouvrez cette porte. Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur.
Monsieur Gorbatchev, tear down this wall.
Extraordinaire ce discours de Reagan qu'on entend en 87, deux ans avant la chute du mur. En fait, c'est pas simplement de son plein gré non plus que Gorbatchev va faire preuve, va justement permettre que ce mur s'effondre. Le rôle des États-Unis et de l'Occident y est pour beaucoup quand même.
Bien sûr, il y avait la pression de l'Occident. Bien sûr, il y avait le facteur Reagan qui voulait, qui était bien présent. Mais vous savez, moi je connais très bien le détail de la fin du mur. D'ailleurs, je raconte ça aussi dans ce livre de la fin du mur. Il faut dire que vous savez, il y avait un plan du KGB qui prévoyait l'utilisation de la force. Il y avait 500 000 hommes quand même là-bas, même plus que ça, qui ont été basés le long de la frontière. On aurait pu utiliser ça très facilement. Et Gorbatchev ne voulait pas le faire. Vous comprenez? Parce que il ne voulait pas tuer. Et alors, ça, c'était un processus absolument voulu. La libéralisation à l'Est, c'était un processus absolument voulu. Je vous dis encore une fois, il savait que ça ne va pas durer. Mais vous savez, ça a duré quand même 6 ans, et c'était suffisant pour rendre le processus irréversible, pour que la liberté gagne quand même d'une manière irréversible. Et je pense que c'était ça le mérite de ce couple, d'agir en conscience. Et quelques gens qu'on oublie, je ne voudrais pas qu'on oublie quand même ça, parce qu'il y avait Yakovlev, son principal conseiller, à côté de Raïssa, et puis il y avait le ministre des Affaires étrangères, Shevardnadze, qui est maintenant à la retraite en Géorgie.
Oui, mais alors, il y a eu aussi, ça s'est passé dès le début, et pendant les 6 ans, il est resté 6 ans à peine au pouvoir, très peu de temps pour faire beaucoup de choses, mais dès le début, il a eu affaire à deux oppositions, on peut s'en douter. D'abord, il y avait tous ceux qui lui reprochaient de ne pas aller assez loin dans les réformes. C'était par exemple, évidemment, le cas de Helsinki, devenu président de la Russie. Et puis, il y avait au contraire ceux qui trouvaient qu'il allait trop loin, qui déplorait au fond la disparition de ce qui était, du temps des prédécesseurs de Gorbatchev, un immense empire. Faut rappeler que Gorbatchev, c'est aussi la fin de la guerre en Afghanistan, qui avait commencé en 79, le retrait des troupes soviétiques, de même qu'elles vont se retirer de l'Allemagne après la chute du mur de Berlin, et il y avait ces communistes, au fond, conservateurs, auxquels se joignent d'ailleurs, se joignent la droite nationaliste, qui disent, mais non, il va beaucoup trop loin.
Bien sûr, c'était ça l'affrontement, mais ce couple, à la fois Gorbatchev et Raïssa, c'était quand même des femmes politiciens. Ils voulaient manœuvrer, ils pensaient qu'ils vont maîtriser les deux tendances. D'ailleurs, j'ai appartenu à une tendance très réformatrice, mais je dois vous dire qu'ils jouaient souvent le jeu avec les réformateurs. Autrement, on ne peut pas expliquer pourquoi il y a la fin du mur, on ne peut pas expliquer, vous oubliez, qu'il y avait les élections multiples, qu'il y avait un tas d'autres choses. L'ambiance est complètement changée là-bas dans ce pays, et c'est ça qui a permis finalement, après, de triompher aux gens qui voulaient plus de réformes.
Oui, mais aux dépens de Gorbatchev, parce que il y a eu ce fameux coup de force, le putsch, qui a été fait par les communistes conservateurs, profitant du fait qu'en août 91, Gorbatchev se trouve en Crimée avec sa femme, pour se reposer. Il y a ce coup de force qui va permettre à ces conservateurs de s'emparer du Parlement russe, d'empêcher Gorbatchev de revenir à Moscou. Qui est-ce qui va sauver la mise? C'est Helsinki, le président de la Russie, qui monte sur un char, qui mobilise l'opinion publique internationale contre les putschistes, et qui, au fond, va permettre d'abord à ce putsch de s'effondrer, mais aussi à Gorbatchev de revenir. Et il revient, évidemment, dans une atmosphère un peu changée. Le maître du jeu, c'est désormais celui qui l'a en quelque sorte sauvé. C'est Helsinki, d'où, 2 jours après son retour de Moscou, cette séance extraordinaire, à laquelle, d'ailleurs, je crois que vous avez assisté, au Parlement.
Parce que j'étais porte-parole des anti-putschistes, voilà. Avec que j'ai bien observé. Helsinki et Gorbatchev. Ah. Et je pense, contrairement à ce qu'on dit, que tous les deux, ils seront traités ensemble dans l'histoire.
En tout cas, on se trouve, là, c'est une séance inouïe, on se trouve au Parlement.
Surréaliste.
Il y a un député réformateur qui exige ou qui demande à Gorbatchev de supprimer le parti communiste. Gorbatchev répond avant d'être interrompu par Helsinki, qui va commettre l'irréversible d'un point de vue communiste. On écoute cette séance extraordinaire.
Ne considérez-vous pas, comme le pense le groupe des 100 partis du Parlement russe, que le Parti communiste de l'Union soviétique est une organisation criminelle et doit être dissous? Gorbatchev.
Ну что же, вопрос поставлен в предельно откровенной форме.
La question est directe. La réponse sera directe.
Если вы поставите задачу
si vous vous fixez comme objectif devant le Soviet suprême et le gouvernement et devant tous les parlements de la République de chasser le socialisme du territoire de l'Union soviétique, alors nous n'y parviendrons pas.
То эту задачу нам не удастся.
Ельцин. Камарады, pour détendre l'atmosphère, permettez-moi de signer un décret sur la suppression des activités du Parti communiste de Russie.
Борис Николаевич,
Указ подписан.
Le décret est signé.
C'est extraordinaire cette séance, vous y avez assisté, Vladimir Fedorovski, Eltsine interrompant Gorbatchev, faisant voter la suppression du Parti communiste, c'est-à-dire de 70 ans de l'histoire de la Russie.
Bien sûr, mais vous savez, Eltsine, après, il va rétablir très vite le Parti communiste, il y aura l'arrangement pour chasser Gorbatchev, tout ça. Mais cela dit, les deux hommes, c'est vraiment une sorte de drame shakespearien. C'est pour ça que pour moi, c'est très difficile, très intéressant de les décrire. Dans mon fort intérieur, je l'ai bien observé. Je suis persuadé vraiment que tous les deux ont joué un rôle historique. Et paradoxalement, peut-être la percée en avant, contrairement à ce qu'on pense, c'était tout d'abord Gorbatchev, et après Eltsine pendant les jours fatidiques de putsch. Mais après, vous comprenez, le fardeau de pouvoir, le pauvre était quand même un peu écrasé par l'alcool et par toutes ces choses.
Là, vous parlez d'Eltsine.
Je parle d'Eltsine, bien Gorbatchev... sûr, mais il ne faut pas... Et à la fois Gorbatchev aussi. Mais Gorbatchev, vous savez, il était chassé du pouvoir...
Le 25 décembre,
après la fin de l'URSS. Mais ces 6 années dont on a parlé, c'est les années qui vont compter à l'infini dans l'histoire mondiale. C'est pour ça que je reviens. Et d'ailleurs, la France, paradoxalement, n'est pas étrangère à cette pensée, encore une fois. Parce que l'inspiration, ce côté universaliste des idées de Gorbatchev, c'est lié avec le génie français.
Est-ce que c'est pas quand même un apprenti sorcier? Quelqu'un, ça arrive beaucoup dans les révolutions, on l'a vu pour ce qui concerne la Révolution française, quelqu'un qui a été écrasé par une évolution, une révolution qu'il a lui-même provoquée.
Moi, je ne pense pas, parce que vous savez, j'étais lié avec eux avant qu'ils ont pris le pouvoir. Le désir, c'était de prendre le donjon et détruire le château. Le désir, c'était de prendre le Kremlin, ils ont pris le Kremlin, et détruire le système totalitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et éviter l'apocalypse mondiale. Et ils ont fait ça sur ce plan-là. C'est un pari gagné. Moi, je reproche évidemment le côté économique. Je reproche évidemment le fait qu'ils ont été dépassés en ce qui concerne les problèmes nationaux et la fin de l'Empire. Mais est-ce qu'ils pouvaient faire tout ensemble? Qu'est-ce qu'il est plus précieux sur les balances de l'histoire? La liberté et les problèmes sont tous secondaires parce que, je vous dis, en connaissance de cause, ça aurait pu terminer dans les fleuves de sang et les fleuves de sang ont été évité.
Merci Vladimir Fedorovski. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui sera demain en librairie, Paris-Saint-Pétersbourg, une grande histoire d'amour, publié aux presses de la Renaissance, et où il est question, au fond, de la fascination qu'exerce la France sur la Russie depuis Catherine II. Les pages qu'on veut consacrer à Gorbatchev et à Raïssa font partie, mais c'est une partie seulement de votre livre.
Bien sûr, mais c'est la face cachée aussi du XXe siècle, mais c'est une histoire qui nous est propre à vous et à nous.
Vous avez pu entendre des extraits du documentaire URSS, Illusion, déclin et chute, réalisé par Christophe Tazewski et coproduit par 21e siècle, AC Productions et TOP et Sun Image. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Christian Thibaudeau et Samantha Morin, documentation et archives sonores Camille Poux-Chalaguier, Claire Tessert et Amélie Briand, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, très loin de la Russie du XXe siècle, un personnage